Cube Radio.
L'athlète pourrait parcourir la distance en seulement 5 secondes.
Chez nous, on le sait, vous avez souligné en manchette tantôt le premier ministre François Legault qui débarque pour une deuxième semaine consécutive dans la métropole. Et Yves, cette fois, il s'intéresse à la situation du côté de Laval, autre épicentre de la pandémie.
Oui, absolument. On est au centre-ville de Montréal présentement. Pierre, sur la rue Sherbrooke, à deux pas du bureau du premier ministre Legault, qui effectivement est en ville pour la deuxième semaine de suite. Et cette fois, bon, c'est la situation préoccupante de Laval. Il s'intéresse à ça et d'autant plus qu'il a rencontré tantôt le maire Marc Demers de Laval, que vous allez voir à l'écran, qui est arrivé ici avec son couvre-visage, son masque. Quand il est entré dans l'immeuble où logent les bureaux du premier ministre, il a lavé ses mains. Vous allez voir également des images du ministre des Finances, Pierre, qui était également participé à cette rencontre, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux financiers liés à cette crise sanitaire qui frappe de plein fouet la métropole. Cela dit, Marc Demers m'a appris, Pierre, d'entrée de jeu, qu'il y a 250 000 de masques qui seront donc distribués à Laval, aux Lavallois, aux organismes communautaires. C'est un coup de main apprécié du maire. Mais en même temps, Pierre, on atteint presque 5 000 cas positifs en ce moment à Laval. Et ça, ça inquiète le maire qui me dit que la situation ne semble pas s'améliorer. Cela dit, j'ai aussi questionné sur les commerces non essentiels dont l'ouverture est prévue lundi. Il s'en réjouit effectivement. Pierre, je veux qu'on regarde à l'écran tout de suite les données, donc, pour Laval, les données lavalloises, les dernières mises en ligne sur la situation, 4 894 cas confirmés, 75 nouveaux cas positifs. Il y a 472 décès, 114 hospitalisations et 21 personnes aux soins intensifs. Je vais faire entendre donc un extrait de l'entrevue réalisée avec Marc Demers qui a passé 45 minutes en compagnie du premier ministre Legault à discuter de la situation.
Et merci de rendre disponible 250 000 masques pour les citoyens de Ville-de-Laval. Et la suite des choses, on a parlé de la relance économique et des mesures à prendre pour être sûr de bien contrôler ce qui se passe sur le territoire de Ville-de-Laval.
Là, on a donc, je pense, près de 4 400 cas positifs, encore 75 de plus par rapport à hier. CHSLD, Sainte-Dorothée. Est-ce qu'on y voit des améliorations ou ça stagne en ce moment de votre côté, là?
Les chiffres sont plutôt stables. Les chiffres me désolent. Je peux vous dire que ça occupe ma pensée 24 heures par jour. Par contre, je constate sur le terrain, je constate une bonne collaboration et un travail réellement formidable des premières lignes.
Et on surveille évidemment à 13h ce point de presse qui va se tenir à Montréal de la part du premier ministre Legault et du docteur Arruda notamment. Et plus tard en après-midi, Pierre, le premier ministre se rendra du côté de l'hôpital de la Cité de la Santé à Laval. C'est prévu à 15h.
Merci. Au revoir.
Et allons du côté de Laval. Depuis le début de cette pandémie, on parle beaucoup du CHSLD Sainte-Dorothée où il y a eu des dizaines de victimes. Alors, Denis, après plus de deux mois de crise, les employés, on le devine, sont épuisés en ce moment.
Absolument. Bon, entre autres, tout à l'heure, je faisais une entrevue avec la présidente qui représente les infirmières et infirmières auxiliaires ici. Ce qu'elle mentionnait, c'est que, par exemple, Sainte-Dorothée, autant de décès, on est rendu à 90. Ça a un impact, d'abord, sur le moral. Les infirmières, le personnel à l'intérieur est épuisé. Alors, et là, ben, les conséquences, évidemment, on cherche encore pourquoi, mais on a pas mal de réponses. Sans y revenir, il y a aussi les préposés aux bénéficiaires. Monsieur Hull est avec moi. Vous êtes le vice-président du syndicat qui les représente ici et ailleurs à Laval. La problématique ici, particulièrement au moment où on se parle.
Ouais, la problématique, comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment au niveau psychologique pour les travailleurs présentement. Et aussi le fait là, qu'on est encore en train de s'ostiner avec l'employeur au niveau des équipements de protection. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a entendu la ministre McCann cette semaine bien dire que les équipements de protection devaient être visière, masque, gants et jaquette. Malheureusement, l'employeur s'entête à continuer à donner ce qu'on appelle une protection oculaire, une lunette. La lunette n'est pas efficace à 100%, ça prend la visière. Donc, on ne comprend pas là, pourquoi il faut s'ostiner avec l'employeur pour avoir des visières pour tout le monde au lieu des lunettes.
Place Belle, vous avez de l'information de vos membres ce matin. Il y a des problématiques locales.
Oui, les informations qu'on a concernant la Place Belle, c'est que ce serait très chaotique présentement, dans le sens qu'on manque d'équipement, on manque de fauteuils gériatriques pour les patients, on manque de contention pour essayer de retenir les patients dans leur chambre parce qu'on a des patients qui font de l'errance. On sait que les planchers de chambre sont encore sur le ciment au lieu d'être sur des planchers en caoutchouc. On sait également qu'on a des patients qui rentrent là avec des doubles infections. Donc, on en a un qui est ERV positif et COVID-19 positif. Et on en a un aussi là, qui est CARBA positif et COVID-19 positif.
Donc, problème en perspective. En résumé, en quelques secondes, la situation générale ici à Laval pour vous.
Bien, la situation à Laval, elle est très hors de contrôle, je vous dirais, présentement à Laval. Et il est temps là, que le CIS de Laval reprenne le contrôle de ce qui se passe partout en fournissant les équipements de protection adéquats pour les travailleurs et en s'assurant là, d'avoir les bons équipements pour pouvoir donner des bons soins.
Monsieur, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Alors voilà donc portrait de la situation du côté des préposés aux bénéficiaires particulièrement.
Merci bien, Denis.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
On remercie nos collègues de LCN TVA Nouvelle. Ça va pas bien à Laval. On imagine que François Legault va en avoir plein les mains aujourd'hui avec sa rencontre avec le maire. On se retourne maintenant vers notre bien à nous, Alexandre Moranville-Ouellet, avec son infovirus. Bonjour. Qu'est-ce qu'il avait à dire aujourd'hui, Justin Trudeau, en point de presse?
Oui, bien, un point de presse, somme toute, un peu moins chargé peut-être que les derniers qu'on a eus. Une véritable annonce là, de la part de Justin Trudeau qui concerne les communautés autochtones, les Autochtones vivant hors réserve, 75 millions de dollars pour soutenir les organismes qui soutiennent ces communautés-là, qui sont souvent vulnérables. On peut d'ailleurs écouter le premier ministre là-dessus.
Notre gouvernement annonce un nouvel investissement de 75 millions de dollars pour les organismes qui répondent aux besoins les plus urgents des plus d'un million d'Autochtones vivant dans les centres urbains ou hors réserve. C'est de l'argent que les organismes communautaires pourront utiliser pour combattre l'insécurité alimentaire, appuyer les aînés vulnérables, aider les jeunes à risque, fournir des services de santé mentale et prévenir la violence familiale.
Donc, 75 millions de dollars d'annoncés, une mesure donc financière plus moindre, si on veut, là, que toutes les autres qu'on a vues dans les derniers temps. Là, habituellement, c'est à coup de centaines de millions, voire de milliards, mais tout de même qui risque d'être la bienvenue pour les personnes qui en ont bien le besoin. Autre chose également, là, Justin Trudeau qui s'est fait questionner par rapport au sort des camps de jour, des camps d'été. On sait qu'il y en a plusieurs là, qui se demandent s'il va y avoir une aide fédérale ou provinciale, mais toujours pas d'engagement de Justin Trudeau là-dessus.
Oui, en fait, Didier, on va regarder ça avec précaution et vigilance.
Notre gouvernement travaille sur une solution.
C'est très bon. Alors, il faut le dire pour les auditeurs, Alexandre, qui travaille avec nous depuis des mois et des mois,
sais ce que tu vas dire.
Fait une excellente imitation de Donald Trump. Mais je pense qu'à la prochaine Halloween, c'est pas en Donald Trump que tu dois être. Tu dois être en Justin et tu nous feras une imitation des points de presse Justin Trudeau.
Ça pourrait être bon quand même.
En tout respect pour notre premier ministre quand même.
En tout respect, toujours.
Parce que, je veux dire, si on veut pas une risée, hein, je veux dire, on a le droit de... Taquiner, c'est aussi une forme de dommage.
On taquine ce qu'on aime.
Voilà, on taquine ce qu'on aime, exactement. Le déconfinement réclamé par des studios d'entraînement privés, je t'avoue que moi aussi, il me tarde d'aller lever des haltères.
Oui, se remettre en forme. C'est la coalition des studios d'entraînement du Québec là, qui demande au gouvernement ils veulent être inclus rapidement dans la liste des secteurs qui vont être visés pour la reprise des activités. Eux, ils comprennent pas que le secteur de la coiffure, entre autres, va réouvrir alors que les gyms ne réouvriront pas. Ils disent que c'est beaucoup plus difficile de faire respecter une distanciation quand on coupe des cheveux que lorsqu'on s'entraîne. Ils disent que tous leurs membres peuvent répondre aisément aux consignes de distanciation sociale, qu'ils peuvent désinfecter tout le matériel, éloigner les machines les unes des autres. Bref, le 24 avril dernier, ils ont dit qu'ils avaient envoyé une lettre au ministre de l'Économie et de l'Innovation ainsi qu'à Horacio Arruda.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Directeur national de santé publique, mais qui n'a toujours pas de réponse de ce côté-là. Donc, ils vont pousser, là, ils réclament à nouveau là, ce déconfinement.
Mais la comparaison avec les salons de coiffure est excellente et c'est rempli de contradictions. Il y a quelqu'un sur les Facebook, je pense, Benoît Girard de l'Union paysanne, qui disait comment ça se fait justement qu'on ouvre les coiffeurs, mais qu'on n'ouvre pas les bibliothèques. Tu sais, c'est comme la difficulté à comprendre. Si on est capable de garder un 2 mètres de distance en allant se faire kiffer, je peux pas croire qu'on peut pas garder un 2 mètres de distance quand on se fait cultiver. Il y a des choses que je comprends pas.
Je pense qu'il y a une prudence quand même de la plupart des paliers de gouvernement de ne pas vouloir trop réouvrir d'un coup, pas vouloir... c'est certain qu'il va y avoir des incohérences là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. C'est certain qu'on va voir là, des commerces, des secteurs qui vont rouvrir alors qu'il y en a d'autres qui rouvriront pas. Mais je pense que je pense que c'est un on joue prudemment du côté du gouvernement, parce que si on réouvre tout, ils ont peur, je pense, de lancer un mauvais message à la population comme quoi tout est permis ou presque. Là. Alors, selon mon analyse, je pense que c'est peut-être prudent, mais ça reste à voir, effectivement, c'est un peu incohérent de ce côté-là.
Oui, alors un assouplissement de la distanciation qui est réclamé pour les moins de 18 ans. Juste pour rappeler aux auditeurs que j'ai fait il y a quelques jours une entrevue avec Dr Roy, qui est pédiatre, et qui, elle, disait, écoutez, les jeunes, là, il faut faire quelque chose, ça n'a aucun sens, parce que l'Association des pédiatres l'avait réclamé de toute façon, de façon indépendante. Mais disons que la Dr Roy était assez véhémente dans ses réclamations. Alors vous allez retrouver ça sur le site de Cube Radio dans la section balado.
Mais oui. c'est encore dans le même dossier, là, on demande de lâcher le 2 mètres pour les enfants de moins de 18 ans. C'est encore l'Association des pédiatres du Québec qui font écho à la Société française de pédiatrie également, là, qui demande au gouvernement, puis qui le reproche un peu là, de pas assez consulter les pédiatres dans le dossier de la reprise des activités. Parce que les enfants, il faut le rappeler, c'est assez essentiel. Là. C'est particulièrement délétère à partir de l'âge de 3 ans de ne pas avoir de contacts sociaux. On parle entre autres c'est le début de l'empathie dans la formation là, d'un enfant. C'est également le moment où on apprend à négocier, à discuter avec les autres, à prendre un jouet, le redonner, partager. Mm. C'est des étapes qui sont extrêmement importantes dans l'apprentissage de la petite enfance. Puis c'est certain que ça peut être vraiment là, délétère, nuisible pour le développement des enfants. Donc, un autre endroit où on réclame un certain assouplissement des mesures de distanciation.
Alors, à tout seigneur, tout honneur, là, j'ai dit seulement Dr Roy, mais parce que je suis vraiment pas bonne avec les prénoms. Dr Marie-Claude Roy, et cette entrevue-là, je l'ai faite le 19 mai. Donc, vous retrouverez ça sur le site de Cube Radio. Le PQ, oui, c'est ça, j'ai vu ça passer. Pascal Bérubé, c'est assez intéressant, qui dit, écoutez, le domaine des restaurateurs, évidemment, en arrache, et c'est un euphémisme. Donc, une aide d'urgence est réclamée pour eux.
Oui, une aide d'urgence que réclame le Pascal Bérubé, le chef parlementaire du Parti québécois, qui soit accordée sans condition aussi et modulée en fonction de la différence par rapport aux revenus de l'an dernier à même date pour ces entrepreneurs-là. Ils veulent qu'il y ait quand même une souplesse aussi dans les normes d'aménagement des établissements là, parce que, on le rappelle, les restaurants, non seulement ça ne va pas très bien, là on constate là, à peu près le plus du 2/3 des établissements constatent environ là, un effondrement de 81% de leur chiffre d'affaires. Là. Mm. On s'y attend, mais quand on entend là, ces pourcentages-là, ces chiffres-là, ça donne froid dans le dos. Par exemple, là, aussi, c'est un maillon tellement important de la chaîne agroalimentaire québécoise. Juste en 2018, pour donner quelques chiffres, là, l'industrie de la restauration avait acquis pour 2,5 milliards de dollars de produits locaux. Alors, c'est de l'argent. 2,5 milliards de produits locaux, pardonnez-moi. Mais c'est énorme. Ça va chercher là, énormément de produits qui font rouler notre économie locale. Donc, le PQ qui réclame un prêt là, immédiat pour aider les restaurateurs.
Mais ce qui est intéressant aussi, puis je pense que c'est un point qui est soulevé par Pascal Bérubé, c'est que la restauration, c'est pas juste économique, tu sais, c'est la vie amusante d'une ville, d'une société, ça passe aussi par les restaurants. Il y a un côté culturel, il y a un côté joie de vivre, il y a un côté art de vivre, et tout ça dépend des restaurants. Et ça va de la binerie du coin jusqu'à... Daniel Vézina à Québec, ouais. Là,
c'est beaucoup pas... qui vont devoir faire un deuil, hein, j'ai l'impression, là, de leur restaurant préféré, de leur bistrot, de leur bar, de leur café. C'est certain qu'ils vont avoir des deuils à faire, là, vraiment.
Absolument. Et écoute, ça, c'est vraiment terrifiant. Un camionneur accusé d'avoir menacé de mort et François Legault et Dr Arruda.
Ouais, qui a été accusé mardi dans l'Anaudière d'avoir proféré la menace de mort à l'endroit du premier ministre François Legault, du directeur de la santé publique Horacio Arruda. C'est Philippe Côté, 47 ans. Il aurait appelé en fait là, au bureau de comté du premier ministre les 12 et 13 mai pour le menacer entre autres là, de tirer une balle en sa direction. Il y aurait eu des propos inquiétants également contre le docteur Arruda. C'était assez sérieux pour que la police procède à son arrestation samedi dernier. Puis outre ces deux accusations-là de menace de mort, il a été également inculpé arrêté pour avoir harcelé M. Legault et M. Arruda pendant plus de 2 mois. Hein? On connaît pas trop les motifs. Là. Il a plaidé non coupable, en tout cas par appel vocal, mais est-ce que c'est parce qu'il compte le confinement, pour le confinement, on déconfine trop vite, on déconfine pas assez, on déconfine pas, on le sait pas, mais quoi qu'il en soit, il y a des gens qui pètent les plombs un tout petit peu, j'ai l'impression, là, avec le confinement.
Écoute, je le vois, moi, sur les pas juste les médias sociaux, mais les gens qui m'écrivent au journal, là. Suffit que tu dises le début du commencement du tiers de quelque chose et le niveau de crinquage passe de 0 à 200 km/h assez rapidement.
C'est motif. Faut dire que...
Écoute, ce matin, il a fallu que je réponde à quelqu'un qui m'a envoyé un courriel assez bête. J'ai répondu, j'ai dit, monsieur, allez prendre une camomille, allez méditer, je sais pas, calmez-vous, là. C'est pas normal de se parler comme ça, là. Ça avait aucun sens.
Ouais, mais l'isolement est que plus important pour certaines personnes, là, évidemment, du fait du confinement. Je pense qu'il y a bien des gens qui sont seuls, qui ont besoin de laisser leur colère s'exprimer, puis qui ont seulement un clavier et un écran devant eux pour le faire. Puis malheureusement, c'est des gens, des figures publiques comme toi, Sophie, qui vont se retrouver dans la mire, comme toi ou comme notre premier ministre et notre directeur.
Mais c'est bien plus grave. C'est bien plus grave et c'est sûr pour M. Arruda et Dr. Arruda et François Legault. La seule raison pour laquelle je parlais de ça, c'est juste pour dire que déjà, en temps normal, on se fait tous varloper. Il y a une coupe de crinqués. Et là, je pense qu'avec le confinement, en effet, ça permet l'éclosion et la propagation assez rapide du virus du crinquage,
ouais,
qui est pas mal répandu. Bon, ben merci beaucoup.
Merci
Alexandre,
à toi,
ça a été un plaisir. Et puis, bon, on te retrouve évidemment plus tard dans la programmation de Cube, sinon on te retrouve demain. Et nous, ben, après la pause, on va parler d'un sujet. Écoutez, honnêtement, quand je lis là-dessus, ça me fait terriblement peur. Parce que vous savez, on a connu au Québec en 2018 une vague de chaleur extrême. Imaginez si on avait la même chose cet été, les CHSLD, la situation. On va en parler avec le docteur Pierre Gosselin après la pause.
Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Alors, vous vous rappelez, il y a quelques années, bon, c'était en 2018, il y avait une vague de chaleur extrême qui avait frappé le Québec. On se rappelle également, en 2003, il y avait eu une vague de chaleur historique en Europe. Il y avait 70 000 personnes qui étaient mortes de cette vague de chaleur. Imaginez s'il y avait quelque chose de semblable ou même juste une grosse canicule cet été. Quelle serait la situation dans les CHSLD? On va en parler avec Dr. Pierre Gosselin. Il est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Dr. Gosselin, bonjour.
Bonjour à vous, Mme Durocher.
On sait que, bon, au Québec, systématiquement, l'été, fin juillet, début août, en général, il y a chaque année un écart de température absolument énorme avec des grandes chaleurs. Quel pourrait être le danger pour le Québec et en particulier pour Montréal s'il y avait ça combiné avec la pandémie COVID-19?
Bien, ce qu'on voit habituellement, les grandes chaleurs, c'est quand elles arrivent un peu plus tôt, là, fin juin, début juillet, c'est là qu'elles sont le plus dangereuses parce que l'organisme n'a pas eu le temps de s'adapter progressivement à la chaleur. Alors, c'est là qu'on voit de la mortalité en excès. Si la même chaleur arrive début août ou fin août, on en a vu en 2018, on a eu la même chose en 2010. Deux vagues de chaleur dans le même été. La première est meurtrière, la deuxième ne l'est pas du tout. Alors, c'est...
Simplement parce que le corps a eu le temps de s'acclimater, c'est le cas de le dire.
Exactement,
ouais.
Exactement.
Ah, c'est intéressant.
Environ un mois et demi à 2 mois, dépendant dans quelle forme on est. Les plus jeunes font ça plus rapidement que les plus âgés. Et puis, ça fait que, dans le fond, la surchauffe qu'occasionne pour notre système cardiovasculaire une vague de chaleur très forte, on est capable de l'absorber. Ça veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'aller chez le médecin ou chez le pharmacien ajuster notre médicament. Ça veut pas dire qu'on n'en souffrira pas. Mais au moins, quand ça arrive à la fin de l'été, on n'en meurt pas généralement.
Donc, pour résumer, quand même, s'il y avait en effet donc une vague de chaleur hâtive, donc on parle ici de la fin juin, ça pourrait être quoi comme conséquence pour le Québec et en particulier pour Montréal, parce qu'on sait que c'est quand même là l'épicentre de la pandémie et qu'en oui. plus, quand il y avait eu cette vague de chaleur en 2018, c'était aussi à Montréal que ça avait frappé le plus fort.
Oui, oui, c'est toujours le Grand Montréal qui souffre parce que d'une part, c'est plus chaud, c'est plus dense, il y a moins d'arbres, il y a moins de verdure, il y a plus de béton, d'asphalte qui absorbe la chaleur. Et donc, dans les maisons comme dans les édifices, s'il fait 32 ou 34 dehors, après 2-3 jours, dans la maison, il fait pas loin de 40 degrés. Mmh. Surtout quand on est à l'étage supérieur ou quand on est dans un immeuble qui est mal ventilé ou peu ventilé ou pas climatisé du tout. Alors, c'est sûr que ça peut toucher particulièrement les personnes fragiles. La chaleur, contrairement au COVID, elle va toucher aussi les plus jeunes qui ont des maladies chroniques ou qui sont sur la rue ou qui ont des problèmes de santé mentale, mais aussi bien sûr les personnes plus âgées. C'est une majorité quand même qui en souffre. Alors que le COVID a touché jusqu'ici particulièrement les personnes plus âgées et très peu les jeunes au final, en termes de mortalité toujours, on s'entend.
Mais si on se rappelle, parce que ça avait été vraiment une hécatombe, c'était d'une tristesse inouïe en 2003 en Europe, 70 oui. 000 victimes, c'est énorme. Et oui. c'était en très grande majorité, je pense en particulier à la France, où il y avait, c'était l'hécatombe, là, les gens tombaient comme des mouches dans les EHPAD, là, l'équivalent des CHSLD chez nous.
Oui.
On peut imaginer que déjà, les CHSLD sont tellement fragilisés au Québec et en particulier à Montréal. Et en plus, la plupart, je pense, bon, il n'y a pas de climatisation ou si peu. Quel genre de combinaison? J'essaie vraiment de voir la combinaison, là. Chaleur extrême, oui. plus la pandémie, comment on va faire pour faire face à ça?
C'est sûr que ce qui nous sauve par rapport à l'Europe, c'est que nous, nos vagues de chaleur sont relativement courtes. C'est 4-5 jours.
Okay.
Et donc, ça fait effet au total sur la population environ une semaine.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
8-9 jours au plus, là. Alors, c'est ce surcroît-là qui va arriver. Cependant, vous avez raison de dire que la population dans les CHSLD ou dans les résidences privées, qui sont souvent pas climatisées, ou bien il y a une pièce de climatisée en général, là, minimalement, mais ils sont déjà affaiblis, parce que là, ça fait plusieurs mois qu'ils sortent pas, mm-hmm. et ils sortiront pas beaucoup. Ils sont déprimés. Ils ont moins bien mangé, possiblement. Alors, au total, c'est une population qui est plus fragile qu'à l'habitude. Alors, c'est clair que le taux de mortalité peut être plus élevé dans une situation comme celle-là. Et puis, on a vu dans certains endroits, il manquait de soins.
Oui.
Il y avait des problèmes d'hydratation, etc. Alors, si on rajoute manque d'hydratation, manque d'attention, pour être sûr que les gens... Mais les personnes âgées aussi, souvent, ils aiment ça quand c'est chaud. Ils pensent pas que ça les concerne. Certains ont des problèmes cognitifs. Mm. Alors, boire un petit peu un verre d'eau à toutes les heures, ben ils y pensent pas. Et ça peut être assez pour une personne fragile de la faire basculer vers un décès qui était pas nécessaire, là, dans le fond, qui était ouais. prévenable.
Oui, tout à fait.
C'est ça la situation.
Mais parce que c'est ça qui a été absolument atroce au cours des dernières semaines, c'est toutes ces histoires qu'on a entendues d'aînés déshydratés dans des CHSLD parce que les préposés aux bénéficiaires n'étaient pas assez nombreux, nombreuses, et n'arrivaient pas à répondre à un besoin aussi essentiel que juste avoir un verre d'eau. Donc, si on se dit, bon, en temps normal, au mois de mars et au mois d'avril, ville si on a de la difficulté à hydrater les personnes âgées? Qu'est-ce que ça va être si, en juin, on n'a pas pallié à ce problème-là? Donc, essayons d'être un peu proactifs et un peu optimistes. Qu'est-ce que les autorités devraient faire dès maintenant pour s'assurer qu'en juin, si jamais il y avait une canicule, qu'on est capable de faire face dans les CHSLD?
Ben les procédures sont en place. On a quand même fait des plans chaleur dans tout le Québec. C'est obligatoire depuis 2007. Alors on commence à être bien rodé de ce point de vue-là. En temps normal, en temps de où il y a du personnel, où on peut planifier
oui,
les vacances
c'est ça.
Et tout. Et,
en temps
et
normal.
De ça. Le problème va être vraiment un problème de personnel. Alors on sait quoi faire. On sait qui est à risque et c'est assez simple à prévenir, mais le problème va être de maintenir la baisse des cas, de maintenir la baisse des personnes hospitalisées et continuer à reprendre le dessus sur l'épidémie en espérant que rendu à la mi-juin, fin juin, on soit revenu à quelque chose d'un peu plus normal comme état de situation au niveau personnel dans les CHSLD. C'est vraiment ça qui va être crucial. C'est pas de pas savoir quoi faire, c'est vraiment ça. Savoir quoi faire est assez simple, dans le fond, c'est de tirer les rideaux, d'ouvrir les fenêtres la nuit pour que ça refroidisse un peu, ça rafraîchisse un peu, offrir des ventilateurs, offrir 2 heures de climatisation par jour dans une pièce à part lorsque c'est possible, dans une pièce climatisée. Et puis, certains peuvent même installer des climatiseurs dans leur chambre, dans certaines résidences
et CHSLD. À leurs frais, c'est ça qui est terrible.
À leurs frais, mais comme tout le monde, un CHSLD, il y a des soins, mais c'est en même temps notre résidence. Alors, plusieurs peuvent se l'offrir. Certains États américains, là où il fait beaucoup plus chaud, offrent des climatiseurs là aux personnes qui peuvent pas se les payer. Mais là, c'est l'Arizona, il fait 40, 42 degrés pendant un mois. Alors, il y a des situations un peu différentes, là, mais c'est quand même possible là, pour notre situation de mettre en œuvre et surtout hydrater. Et puis, les bains, une fois par semaine, c'est pas assez. Il faut y aller sur une fois par jour quand il y a une canicule pour rafraîchir les gens. C'est très efficace. Donc, on peut...
non, mais excusez-moi, je ris.
On a des soins de ce type-là qui sont implantés puis bien suivis pendant toute la durée et les 2-3 jours qui suivent la fin de la canicule.
OK. Docteur Gosselin, vous êtes médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Vous nous dites qu'en période de canicule, il faut qu'il y ait un bain par jour pour les personnes qui sont dans ces résidences, dans ces CHSLD.
Oui.
Est-ce que vous...
Ça peut être un bain d'éponge, j'ai remarqué, à l'eau fraîche, là. Donc, de passer la débarbouillette, l'éponge, rafraîchir les gens.
Oui, mais ça me rassure pas du tout, docteur Gosselin, parce que en ce moment même, le personnel est débordé.
Ah, je sais. C'est vraiment une question de personnel, là. C'est vraiment, est-ce qu'on va être capable, pendant... Écoutez, il nous reste vraiment, vu la situation actuelle, à souhaiter qu'il n'y ait pas de canicule cet été très forte. Là.
Oui.
Il va faire chaud. Souhaitons qu'il fasse chaud, mais pas plus que d'habitude, puis peut-être un peu moins que d'habitude, un peu comme on a eu un printemps frais. Mais si on a un été un peu plus frais, ben, ça donnera une chance à tout le monde de souffler dans les CHSLD, c'est clair.
Donc vous, pour l'instant, ça ne vous inquiète pas outre mesure? C'est drôle parce que moi, ça me terrorise. Parce que je me dis, si en l'état actuel des choses, on est à peine capable de sortir sa tête de l'eau et qu'on est à peine capable de donner les soins de base, qu'est-ce que ça va être si on se dirige vers, même si c'est pas une canicule, même si c'est juste des grosses chaleurs? Parce que ce que vous me décrivez de donner avec des éponges, là, de rafraîchir les personnes âgées, écoutez, ils ont même pas le temps de leur donner... Ils sont obligés quasiment de leur pitcher leur repas parce qu'ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Je ne sais pas, moi, je trouve ça très inquiétant, mais je ne vous sens pas plus inquiet qu'il ne le faut.
Ben, il faut voir que la surmortalité, elle survient quand il fait, pour Montréal, au-dessus de 33 le jour et 20 la nuit pendant 3 jours ou plus. Ça n'arrive pas tous les ans.
D'accord.
Alors, c'est arrivé depuis 2010, c'est arrivé 2 fois. Alors, et ça dure habituellement 5 jours, ou 6 maximum. Donc, c'est pas quelque chose, je suis d'accord avec vous, que à chaque fois que ça arrive, il y a une surmortalité, et une partie de cette surmortalité-là, elle se passe dans les CHSLD. Mais pas toutes. Donc, si on a un excès de en 2010, on a eu un excès de 300 personnes à peu près en surplus qui sont décédées pendant la canicule. En 2018, on est allé un peu moins à 93 de mémoire, quelque chose comme ça, 98. Alors, disons qu'à peu près le tiers de cette surmortalité-là pour le Grand Montréal est survenu en CHSLD, peut-être 40%. Donc, on est à 40-50 personnes de plus. Il faut voir aussi que les personnes qui vont mourir quelquefois vont être des personnes qui allaient mourir de toute façon, qui est dans le mois ou les deux mois qui suivent. Et il y a ce qu'on appelle un effet de moisson, un effet de décès un peu prématuré qui est compensé après par le fait qu'il y en a moins qui meurent dans les semaines qui suivent. Alors tout ça fait partie de la réalité. C'est des choses qui sont gérables, mais pas tout le temps. Là, on a une situation vraiment exceptionnelle. Il est clair qu'il peut s'ajouter, s'il y a une canicule, quelques dizaines de décès supplémentaires à cause de ça chez ces personnes très âgées, très malades. Là, il n'y a pas de doute que ça puisse arriver.
D'accord.
Mais je vous en parle comme ça calmement, c'est plutôt ma formation, c'est plutôt c'est pas que je suis insensible.
Mais ça vous honore, au contraire. Mais c'est aussi que c'est important d'en parler maintenant pour que, justement, dans les différents CHSLD, on puisse mettre des mesures en place pour s'assurer que si ça arrive, on aura été prêt, puis je pourrais toujours ressortir l'entrevue du 21 mai en disant, ben voyons donc, dès le 21 mai, Dr Gosselin disait, il faut prévoir des choses pour pouvoir donner des bains à l'éponge à ces gens-là et les hydrater comme il faut. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Dr Gosselin.
Ça m'a fait plaisir. Bonjour.
Dr Pierre Gosselin, qui est médecin conseil à l'Institut national de santé publique du Québec.
Tout le monde a droit à son opinion. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
Sophie Durocher.
On n'est pas obligé d'être d'accord.
Alors, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mais à 20h, sur les internets, il y a un grand spectacle avec des vedettes de un petit peu partout à travers le monde qui va avoir lieu. Ça s'appelle le Stay Well Concert. Alors, le concert Portez-vous bien, évidemment, relié à la COVID-19. C'est organisé par l'Église de Scientologie. Bon, l'Église de Scientologie, qui est en fait une secte, là, on va se le dire. Et qui va participer à ce spectacle? Nul autre que notre bien québécoise, France D'Amour. Alors, vous me direz, bon, ben, elle a bien le droit de penser ce qu'elle veut. On sait que France D'Amour, depuis des années, fait partie de cette organisation. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qui dénoncent depuis des années les sectes et leur pouvoir de conviction? On va en parler avec Jean-Sébastien Lozeau, que vous entendez régulièrement sur les ondes de Cube Radio. Il est auteur du livre « Réveillez-moi, une enfance chez les témoins de Jéhovah ». Bonjour Jean-Sébastien, comment vas-tu?
Salut Sophie, ça va très bien dans les circonstances.
Oui, ben c'est sûr, on va en parler un petit peu plus tard aussi, oui, de la COVID plus directement. Mais écoute, j'ai pensé à te parler parce que tu as écrit donc ce livre, tu as fait également un documentaire. Toi, c'est les témoins de Jéhovah, tu as été élevé dans cette secte-là. Comment on peut comparer, mettons, les témoins de Jéhovah avec l'Église de Scientologie? C'est quel genre de bibitte ça, l'Église de Scientologie?
Ben d'abord, juste le fait que tu nommes ça une secte, déjà je suis très fier de toi parce que c'est ce que c'est. Il faut pas avoir peur des mots. Alors écoute, je suis pas un expert en scientologie, je sais par contre qu'ils ont des croyances assez particulières et qui ramassent beaucoup de notre argent si on adhère à cette secte-là. Et je lisais tantôt qu'il y a quelques stades et à atteindre, et un de ceux-là passe beaucoup par l'acte sexuel et c'est, oui, souvent sans le consentement de la femme. Donc, mon Dieu, je peux pas croire que quelqu'un comme France D'Amour va participer à un concert comme ça. Mais tu sais, les sectes, là, peu importe la secte, peu importe vers quoi se dirige une secte, c'est toujours de la même façon. Hein. On va chercher des âmes en détresse.
Ouais.
Et puis là, ben, c'est une bonne façon pour aller en chercher parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui souffrent actuellement.
Oui. Alors,
France D'Amour doit beaucoup souffrir pour participer à ce concert-là.
C'est ça. Alors, donc, ce qui est particulier, puis la raison pour laquelle on en parle, en effet, je reviens toujours avec mon idée de départ, elle peut bien croire ce qu'elle veut. Sauf que on le sait, que ce soit, par exemple, des gens très connus aux États-Unis comme John Travolta, comme Tom Cruise, la Scientologie, sont très forts sur le recrutement, sur le prosélytisme. C'est sûr qu'ils viennent pas sonner chez nous le dimanche comme les témoins de Jéhovah, mais parallèlement à ça, il y a plein de gens qui travaillent très activement pour mettre les gens en garde contre les sectes. Puis, on s'en est déjà parlé, Jean-Sébastien, moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a déjà fait partie d'une secte, et pour l'entourage, bien, c'est désespérant, là. C'est vraiment... sont des ravages qui sont faits par ces organisations-là.
Tu as totalement raison. Tu sais, quand tu es dans une secte, je l'ai dit maintes et maintes fois, tu ne réfléchis plus par toi-même. Et peu importe qui te parle, si ça vient pas de la secte, si c'est pas un commentaire qui est lié à ta secte, une façon de penser qui est liée à ta secte, ben les propos que tu peux, qu'ils entendent, que ces gens-là entendent, ne signifient absolument rien pour eux. Alors, quand tu pries avec quelqu'un dans ta famille comme ça, peu importe la secte, c'est important de faire preuve de persévérance et de pas avoir peur de leur poser des questions pour essayer du moins qu'ils soient capables de répondre par eux-mêmes et qu'ils réalisent par le fait même, par eux-mêmes, que leur façon de voir la vie et de la concevoir, mais sont peut-être un peu dans le champ, tu sais. Puis, tu sais, je voyais, là, la Scientologie est très, très bonne, comme tu l'as dit, sous cet aspect-là, hein. On utilise des gros noms, des grosses vedettes, alors il y a des gens qui se laissent aveugler par ça, puis qui se laissent courtiser par ça, puis j'ai vu que récemment, ils ont fait un autre événement qui s'appelait Spread a Smile, donc on essaie de jouer... la carte de rendre ça beau puis de jouer l'arc-en-ciel.
Ouais. Donc pour situer un peu l'Église de Scientologie, leur croyance, écoute, bon, ça a été fondé par un auteur de science-fiction, Ron Hubbard, et bon, ben c'est toutes des histoires d'extraterrestres, l'humanité créée en laboratoire, toutes sortes de patentes. Tu dis, ben voyons, c'est comme c'est.
Est-ce qu'eux croient à la Terre plate? Est-ce qu'ils sont là?
Non, mais c'est ça, c'est comme si on disait, quand on dit, bon, ben, elle a pas le droit de croire ce qu'elle veut, ben, je veux dire, quelqu'un qui viendrait me dire, la Terre est plate, puis l'humanité a été créée en laboratoire par des extraterrestres, j'ai le droit de partir à rire, puis de dire que c'est une vaste fumisterie. On a toujours bien le droit, en démocratie, de dire qu'on trouve ça pathétique et ridicule et lamentable, hein? On a le droit de trouver ça risible.
Ben, on n'a pas juste le droit, il faut le
dire. On a le devoir.
Parce que ça
n'a
pas de sens.
Oui. Donc, je crois comprendre, Jean-Sébastien, que oui. Tu n'écouteras pas ce spectacle à 20h.
Ce soir, j'ai autre chose à faire et même si j'avais rien, pour ça, je ne l'écouterai pas.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, à des gens qui disent, bon, ben écoutez, pourquoi vous en prenez à l'Église de Scientologie ou aux témoins de Jéhovah et que vous dites pas un mot sur des religions officielles, bon, les trois religions monothéistes, là, le judaïsme, l'islam et le catholicisme. Qu'est-ce que tu répondrais à ça, Jean-Sébastien?
Ben, je pense que, en tout cas, en ce qui me concerne, puis en ce que j'entends autour de moi, les gens parlent de tout ce qui est secte ou religion. Les gens critiquent beaucoup, hein, même le pape, je pense pas qu'il suit, qu'il passe à côté de ça. Donc, peu importe que ce soit, de un mois que ce soit une religion ou une secte, pour moi, c'est la même chose.
Pourquoi c'est la même chose?
Parce que ce sont des endroits où on te donne une façon de penser, on te vend ça et on te dit ça, c'est la vraie façon de penser. Voilà, nous, là, on a la vraie façon de penser. On a
crois ou meurs. Crois ou meurs.
Voilà, exact. Alors, et tout être intelligent, on a beau croire à quelque chose, malgré tout, il faut toujours être en réflexion, en questionnement, parce que les choses évoluent et nos connaissances aussi, et les connaissances par rapport à certaines choses évoluent. Alors, dire qu'on a la vérité absolue, je trouve ça absurde et ridicule.
Bon, Jean-Sébastien, je suis très contente que tu aies réagi à ça. Écoute, tu as écrit « On change complètement de sujet, mais je voulais pas t'avoir à l'émission sans t'en parler. On passe complètement à un autre sujet parce que t'as écrit une lettre récemment dans les journaux où t'allais tout à fait dans le sens de la pédiatre que j'ai interviewée là, qui dit, ben voyons, les enfants de 18 ans, faut qu'on les laisse jouer. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi on permet pas, par exemple, à des enfants de faire des sports de groupe. Ça a été assez percutant comme lettre.
Ben, merci, d'abord. Ensuite, ben, j'avais besoin de l'exprimer parce que de un, je suis un papa avant tout. Et puis, même si mon fils va bien, plein d'enfants autour de moi vont bien, il y en a d'autres qui vont pas bien. Et ça veut pas dire qu'il y a des enfants qui vont bien, qui sont pas en manque de leur vie. Parce que malgré tout, on leur a enlevé leur vie. Et c'est l'enfance qui est le fondement de la suite d'une vie pour tout être humain. Et c'est important là que les enfants retrouvent leur vie. C'est important qu'ils fassent du sport. Ça passe par là. On leur a enlevé l'école. Je parle dans la CMM. Moi, j'habite à Mont-Saint-Hilaire, donc je fais partie de la CMM. Mm-hmm. Puis l'école est fermée jusqu'en septembre. Au moins jusqu'en septembre, c'est ce qu'on entend. Et moi, je trouve ça absurde qu'on ouvre des Walmart, des Dollarama, des terrains de golf, mais qu'on n'est pas capable de prendre aucune décision pour nos enfants, pour nos jeunes, c'est absurde. Ça tient pas la route. Et je suis pas le seul. Moi, je suis pas un expert, mais même les experts le disent et martèlent partout, là. Il faut que Legault et Charest et sa troupe mettent leurs culottes, se tiennent droit et redonnent vie à nos enfants.
Ah oui, Isabelle Charest, la ministre du sport. OK, oui, je pensais que tu parlais de Jean Charest.
Ministre particulière, mais ministre quand même.
Quand même. Écoute, Jean-Sébastien, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça aujourd'hui, d'avoir réagi donc à ce spectacle anti-COVID de l'Église de Scientologie. Et je rappelle pour les gens, s'ils veulent, quand les bibliothèques vont rouvrir à un moment donné, ton livre « Réveillez-moi, une enfant chez les témoins de Jéhovah », vraiment un témoignage très pertinent. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.
Merci, Sophie. À bientôt.
On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
Cube Radio.
Vous connaissez le docteur David Lucier, il est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et il est régulièrement interviewé dans les médias pour parler de toutes ces questions qui concernent le troisième âge, comme on l'appelait avant. Eh bien, récemment, c'est lui qui est devenu l'objet de la nouvelle, puisqu'on a appris il y a quelques semaines qu'il avait eu la COVID-19. Il est maintenant guéri et il a décidé de faire un don de plasma pour permettre à d'autres malades de recevoir les précieux anticorps. Il est au bout de la ligne, docteur Lucier, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes complètement guéri? Est-ce que tout ça est derrière vous, la vilaine COVID?
Oui, effectivement. Les quelques symptômes que j'ai eus, qui étaient très minimes là, par rapport à ce que plusieurs autres ont, sont complètement disparus. Il reste seulement un peu de fatigue, mais difficile de l'attribuer au virus là, ou à autre chose.
Ben, peut-être au fait que vous travaillez comme un fou parce que en cette période, les gériatres sont évidemment très sollicités. Écoutez, vous avez choisi de faire un don de plasma. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord, nous prendre par la main, parce que des fois, peut-être nos cours de biologie ou d'anatomie sont un petit peu loin. C'est quoi le plasma et qu'est-ce qu'on trouve dans le plasma qui peut nous aider en cette période de COVID-19?
Oui, mais en fait, le plasma, c'est une partie du sang qui, quand on enlève les globules rouges du sang, il reste le plasma, qui est un liquide transparent, là, qui est un liquide transparent. Ce qu'on fait quand on fait un don de plasma, c'est qu'on fait ce qu'on appelle une plasmaférèse. Donc, on va retirer le plasma, mais on remet le sang dans le corps de la personne. Donc, c'est ce qu'ils font également là, quand on fait le don de plasma. Ils retirent le plasma, ils nous remettent notre propre sang, puis ils remettent du volume aussi pour empêcher la perte de volume puis la déshydratation. D'accord. Et dans le plasma se retrouvent entre autres les anticorps. Donc, les anticorps contre tous les anticorps, mais entre autres les anticorps là, contre la COVID-19. Donc, le but de l'étude, c'est de vérifier si, quand on a une personne qui a une forme sévère là, de maladie, c'est pas quelqu'un qui a seulement quelques symptômes, mais quelqu'un qui a une forme sévère qui pourrait être dangereuse pour sa vie, de lui donner les anticorps pour combattre la maladie.
D'accord. Donc, vous avez dit le mot clé qui est le mot étude. Donc, c'est une étude, un grand essai clinique, en fait, auquel participent une cinquantaine de centres au Canada. Il y en a une quinzaine au Québec. Donc, on nage un peu dans le brouillard. C'est-à-dire qu'on pense que peut-être le fait que vous et d'autres donniez le plasma, que ça peut transmettre, en fait, les anticorps qui vous ont été utiles, qui peuvent être utiles à d'autres, mais à ce stade-ci, il n'y a rien de prouvé. On nage un peu dans l'inconnu, là.
Non, c'est vraiment une étude clinique, comme vous le dites, et je ne suis pas le spécialiste de l'étude, là. J'ai fait un don de plasma comme patient et non comme
spécialiste
pour cette étude-là. Mais je sais que c'est dans plusieurs centres, comme vous le dites. On donne du plasma de 4 personnes différentes, donc probablement pour avoir... plus d'anticorps, là, être certain d'avoir plus d'anticorps à une seule personne. Puis à ma connaissance, ça a été fait seulement quelques fois là, ou une fois au Québec jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose qui est assez tout début. Et ils vont comparer, il y a encore dans une étude, il faut toujours comparer avec un placebo là, ou quelque chose qui ne serait pas le vrai plasma. Donc ils vont comparer, certains vont recevoir les anticorps et d'autres vont recevoir un placebo pour voir s'il y a vraiment une différence sur la guérison puis sur la mortalité chez des cas sévères.
D'accord. Alors, c'est fascinant quand même à quel point partout à travers le monde, des scientifiques mettent leurs idées en commun pour essayer de contrer ce virus. Et c'est là qu'on voit aussi, bon, on parle beaucoup évidemment du vaccin. Un vaccin, c'est une immunité, une immunisation active. Ce que vous avez fait, donc le don de plasma, ce serait une immunisation passive, mais si en effet ça fonctionne, ça veut dire qu'on pourrait à ce moment-là se passer du vaccin, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même retrouver peut-être une vie normale sans avoir à attendre la création d'un vaccin?
Là, vous dépassez un peu mon champ d'expertise, mais ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est que c'est pas réaliste là, qu'on va faire des transfusions de plasma à tout le monde pour prévenir. Je crois que la transfusion de plasma, c'est vraiment plus pour des cas qui sont avérés, qui sont sévères, alors que le vaccin permet de développer les anticorps. Donc, le but d'un vaccin, c'est de ne pas attraper la maladie. C'est de que si le virus se présente, les anticorps vont déjà être là, l'immunité active, comme vous dites, va déjà être là pour pouvoir le combattre avant que la maladie se développe, alors que le but de donner les anticorps, comme parfois dans d'autres maladies, on donne des immunoglobulines, c'est de combattre le virus.
Je comprends.
Il est là.
La différence, la nuance est très importante. Alors, vous l'avez dit, c'est pas nécessairement votre domaine d'expertise. Votre domaine d'expertise, par contre, c'est la gériatrie. Je l'ai dit au début, vous êtes gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Est-ce que la situation est sous contrôle?
Oui, ça va beaucoup mieux. Nous, on peut dire... on est arrivé au bout du tunnel.
Oui.
C'est pas seulement de voir la lumière, on voit plus que la lumière. Là, on est en train de sortir dans la lumière, c'est-à-dire que malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont décédés, de résidents qui sont décédés.
Il y en a combien en tout, docteur Ducier, qui en sont décédés?
Je voudrais pas vous donner un chiffre parce que ça change beaucoup, puis j'ai pas le chiffre exact, là. Mais je sais qu'il y en a pas eu depuis au moins une semaine. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Il n'y a pas non plus de nouveaux cas de personnes infectées depuis au moins une ou deux semaines. Donc ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et ceux qui ont été atteints maintenant sont tous rétablis, c'est-à-dire que la maladie, ils sont plus malades. Ils sont pas tous guéris parce que pour être déclaré guéri, il faut avoir 2 tests négatifs consécutifs, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, mais il n'y a personne qui est activement malade. Donc, on peut être certain à ce moment-ci qu'on n'aura pas d'autres décès qui sont dus à la COVID. Et ça fait beaucoup de bien. La période, j'ai été absent pendant un mois. Ça a été la période la plus difficile. Quand je suis revenu depuis une semaine, on peut dire que là, on est vraiment vers la sortie du tunnel.
Est-ce que, d'un point de vue plus personnel, pour vous, qui avez vraiment dédié votre vie, votre carrière à prendre soin des personnes âgées, le fait que, justement, la COVID vous ait mis knock-out au moment où c'était le pire à l'Institut, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous sentir impuissant, inutile, peut-être?
Oui, ça a été très, très, très difficile, surtout que ça a été un knock-out technique, si on veut, parce que j'ai pas vraiment été knock-out. J'ai été peut-être malade pendant quelques jours, là, où j'aurais pas pu travailler, mais dès la deuxième semaine, j'aurais très bien pu revenir au travail. Donc, il y a 3 semaines où j'étais à la maison parce que j'avais des tests qui étaient positifs, mais j'étais pas du tout malade. J'aurais pu travailler durant ces 3 semaines-là. Je faisais ce que je pouvais de la maison.
Oui.
Mais c'est très difficile, oui, depuis... c'était difficile d'entendre les collègues qui étaient à bout de souffle, qui travaillaient très, très fort, puis de pas pouvoir aider, parce que je suis évidemment pas le seul médecin et surtout pas le seul employé. Il y a eu plusieurs infirmières, plusieurs préposés aux bénéficiaires, ergothérapeutes, physiothérapeutes, agents de sécurité, réceptionnistes, là, toutes les professions et les corps d'employés. Il y a des gens qui ont été atteints. Donc, ça a été très difficile, oui, de ne pas pouvoir aider pendant la période qui était la plus critique.
Vous nous dites que depuis une semaine, il n'y a pas de nouveaux cas et qu'il n'y a pas de décès non plus. Vous nous dites que la lumière, c'est plus que la lumière au bout du tunnel. C'est vraiment un rayon de soleil, d'une certaine façon. Est-ce que c'est trop tôt pour faire une sorte de bilan de ce qu'on aurait pu mieux faire à l'Institut de gériatrie? Parce qu'il y a un moment donné où la situation était vraiment critique. Des leçons à retenir aussi pour la suite des choses, Dr. Lucien?
Je crois que c'est la même chose qui a été le même problème partout. Là, on l'a dit plusieurs fois, c'était le fait qu'au début, les CHSLD n'étaient pas préparés, les hôpitaux de soins aigus étaient préparés, les CHSLD ne l'étaient pas. Il aurait fallu que dès le départ, ce concept de zone que les gens connaissent bien maintenant, je crois, la zone chaude, la zone froide, la zone tiède, il aurait fallu que ce soit établi dès le début. Il aurait fallu que dès qu'on savait que le virus s'en venait, qu'il y ait déjà eu un plan qui a été fait qui dise quand nous aurons le premier cas. Quoi faire,
ouais.
Plutôt que de dire si nous avons un cas ou
voilà.
Nous verrons à ce moment-là quoi faire. Il aurait fallu prendre pour acquis qu'il y en aurait partout dans tous les milieux,
ouais.
Et de déjà savoir quoi faire quand le cas arriverait, que le plan s'active immédiatement et automatiquement. Il aurait fallu être mieux préparé. Il n'y a aucun endroit dans le monde qui était bien préparé.
Ah, ben là, écoutez, je sais qu'il nous reste très peu de temps, mais je veux quand même vous soumettre le cas de Hong Kong, parce qu'il y a un texte qui est paru ce matin que je trouve absolument passionnant, où on nous dit qu'à Hong Kong, dans les soins, dans les centres d'hébergement là, pour les personnes âgées, bon, je vais vous le lire, je vous le traduis en même temps de l'anglais, dans toutes les résidences pour personnes âgées, il y a quelqu'un qui s'appelle le contrôleur des infections et que 4 fois par année, on fait des exercices d'urgence, comme on le fait pour les incendies, où on fait comme s'il y avait un incendie, ben qu'est-ce qu'on ferait? Bon, on prend telle porte, telle porte, telle porte. Et 4 fois par année, on fait des emergency drills et on simule comme s'il y avait une infection qui se propageait dans l'établissement pour établir des normes de bonne pratique. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça ici au Québec?
On le fait aussi, hein. Dans tous les établissements, il y a des conseillers en prévention, contrôle des infections. Donc ça, c'est déjà fait ici aussi. On sait comment combattre plusieurs infections. C'est que ce virus-là était nouveau puis on ne le connaissait pas.
Ouais. Bon, on était préparé à tout sauf à la COVID-19.
On était préparé à des influenzas, on était préparé à des Clostridium difficile, à des gastro-entérites, mais la COVID-19, on ne savait pas que ce virus-là était si différent des autres.
Bon. Ben, très contente de savoir que la situation est vraiment sous contrôle maintenant à l'Institut et que vous, vous portez mieux, Dr. David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Un plaisir.
Merci à Hugo Veilleux à la recherche, à Maude Boutet également à la recherche et merci à Gabrielle Meunier à la mise en onde. Et puis, ben, on va chanter peut-être ce soir avec France d'Amour.
Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
Et maintenant, autrement écouté.